France Musique.
Bon week-end, Nicolas Lafitte, et à très vite.
On va déborder un petit peu, le filet se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive, j'arrive.
Bonjour à tous. Ce matin encore, Fabrication Maison vous invite à passer côté coulisses pour découvrir la musique à Radio France. Dans le portrait, nous recevrons le bassoniste Julien Hardy, super soliste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, qui vient de sortir un disque intitulé « Inspiration ». Dans son reportage, Baptiste Etchegaray nous fera vivre l'une des fictions de France Culture avec l'Orchestre National de France. Puis à 8h20, ce sera la chronique de Marie Fauché, un petit coup de froid ce matin. À 8h30, le monde fabuleux des archives de Jean-Yves Pat. À 8h45, votre souvenir musical dans Parlez-moi de musique. Et enfin à 8h50, notre feuilleton Question de cœur avec Sophie Janin. Ça en fait des choses, vous restez à l'écoute.
France Musique.
Julien Hardy, bonjour.
Bonjour Dominique.
Alors Julien, je crois que les auditeurs de France Musique connaissent le son de votre instrument sans vous connaître vous, parce que vous êtes basson solo à l'Orchestre Philharmonique de Radio France depuis 8 ans, c'est ça ?
Oui, à peu près, oui, c'est ça.
Avant d'avoir été basson solo à l'Orchestre National de France.
Oui, j'étais basson co-solo. Hein, parce que
basson co-solo,
voilà,
attention.
Parce que les orchestres sont très hiérarchisés. Il y a un premier, il y a un deuxième, un troisième, un contrebasson. Et donc on a vraiment chacun notre rôle très spécifique à l'orchestre, oui.
Vous venez de publier un disque, c'est ça votre actualité, avec deux de vos complices ?
Oui, Simon Zaoui au piano et Frédéric Tardy au hautbois. Donc c'est un disque qui tourne autour de la musique française du XXe siècle, autour du trio, hautbois, basson, piano. Et Nicolas Balderoux se joint à nous.
Nicolas Balderoux, qui est clarinette solo à l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Voilà, également, se joint à nous pour le Florent Schmitt, le quatuor de Florent Schmitt, qui est pour moi un peu le chef-d'œuvre du disque. C'est de la musique qui a été assez peu enregistrée. Florent Schmitt, il y a peut-être 2 ou 3 enregistrements. Jean Français, il n'y en a aucun. Planel, personne ne l'a enregistré non plus.
Jolivet, ah oui, Planel, moi, je dois dire que c'est une découverte.
Bah, Robert Planel, oui, je ne le connaissais pas non plus. Il a été quand même Grand Prix de Rome, cofondateur de la maîtrise de Radio France. Il y a eu des hommages, d'ailleurs, qui ont été effectués par Radio France il y a une vingtaine d'années.
Une vingtaine d'années,
voilà.
Oui.
Mais une pièce très courte, mais très, très intéressante à découvrir.
Julien Hardy, on ne va pas commencer par ce disque, on terminera avec cet enregistrement. Par contre, on va faire votre portrait en musique et puis on commence tout de suite par rentrer dans le vif du sujet.
Thank you.
Julien Hardy, vous avez les yeux qui brillent en écoutant cette musique.
Ce concerto de Vivaldi, celui-là en particulier, j'ai dû l'écouter à peu près 2000 fois. Je pense cette intro, cette levée des cordes, etc., etc. Je le connais par cœur. Et donc c'est Sergio Azzolini qui interprète ce concerto en sol majeur. Il faut savoir que Vivaldi donc, a écrit 39 concertos pour basson, dont deux qui sont inachevés. Donc c'est vraiment le compositeur majeur, évidemment,
pour le basson.
Pour le basson. Ouais. Et donc Sergio Azzolini s'est lancé il y a maintenant peut-être une dizaine d'années dans l'enregistrement des intégrales. Ça, c'est un des premiers opus. Et le dernier opus vient tout juste de sortir.
L'idée, c'est aussi d'évoquer ce Sergio Azzolini, qui est une personnalité extraordinaire. Vous le disiez, qui était votre professeur.
Alors, j'ai eu la chance, dans mon cursus musical, de rencontrer que des professeurs vraiment géniaux. Le premier, Jean-François Langelos à Reims, m'a donné l'envie de travailler et le plaisir, vraiment. Ensuite, j'ai rencontré Gilbert Audin, qui a été qui est mon principal professeur, avec qui je suis toujours en contact.
Ça, c'était pour le basson classique.
Le basson moderne. Et ensuite, je suis allé, après le conservatoire, sous l'impulsion justement de Gilbert Audin, je suis allé voir Sergio Azzolini à Bâle, alors que je venais juste de rentrer au National. Et donc pendant 2 ans, je faisais des allers-retours entre Paris et Bâle.
Vous étiez crevé ?
J'étais crevé, il n'y avait pas le TGV à l'époque, on mettait 6 heures pour aller à Bâle. J'arrivais en cours, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Et là, j'ouvre la porte de l'école, de la Musikhochschule, et je vois Sergio avec le sourire jusqu'aux oreilles qui me prend dans ses bras, qui me dit, oh Julien ! Et là, c'était parti. On faisait 12 heures de musique par jour et ça durait 3-4 jours et je découvrais un autre monde en fait, vraiment. C'était
Azzolini qui a un son absolument merveilleux, il fait danser le basson, c'est ce qu'on entendait. C'est donc grâce au basson baroque que vous êtes rentré dans ce répertoire baroque.
Oui, c'est vrai que j'avais une culture baroque assez limitée, je pense, à l'époque, et il m'a fait découvrir ce milieu. Ouais.
On écoute un autre musicien, un autre compositeur, Merula, c'est très joli. Thank you. C'est incroyable. C'est une musique bavarde, délicieusement amoureuse, je trouve. Il y a un mariage des timbres et des virtuosités dans cette chaconne de Tarquinio Merula.
Oui, interprété donc par Il Giardino Armonico. C'est pareil, enfin, ce sont des enregistrements que j'ai écoutés 1000 fois, je pense. J'ai des tas de disques d'Il Giardino Armonico. Je les avais découverts avec les 4 saisons de Vivaldi, parce qu'ils avaient sorti un album un petit peu détonnant, un peu rock, comme on disait.
Oui, ouais, avec une pulsation typiquement baroque. Maintenant, on a l'habitude, mais autrefois, ça avait frappé.
Oui, c'est un ensemble qui a été créé par Antonini, qui a déjà dirigé l'Orchestre Philharmonique, d'ailleurs, dans un répertoire un peu plus classique, qui est un véritable génie également. Et bon, bah, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup écouter ces musiques-là, parce que ce sont des musiques que je n'ai pas l'occasion de jouer, tout simplement.
Et puis ça me... Finalement, Julien Hardy, vous écoutez les musiques que vous ne jouez pas. Non, mais alors, les musiques que vous jouez, vous les jouez.
À part les concertos d'Ivaldi, mais sinon, Merula, Corelli, Uccellini, enfin, ces compositeurs italiens de l'époque baroque, oui, ça, c'est des compositeurs que... Peut-être, déjà, je m'en sens pas forcément capable, parce que j'ai pas ce langage qui me permettrait de les interpréter, mais alors, je prends un tel plaisir à les écouter.
Bon, alors, on continue.
Thank you.
C'était le prélude de la 10e sonate de Corelli en fa majeur. Enrico Gatti est au violon, Gaetano Nasio au violine, qui est un instrument un peu entre la viole, le violoncelle, et puis Guido Morini au clavecin. Vous aimez beaucoup cette musique, Julien Hardy, mais vous ne la jouez pas.
Mais non plus, mais...
Pourquoi vous n'êtes pas dans des ensembles de musique ancienne?
Ça a été un projet pendant longtemps, peut-être que ça se fera un jour, mais je fais déjà beaucoup de choses, et puis c'est un langage que je trouve magnifique, mais peut-être que je ne me sens pas assez prêt ou assez capable de le faire. Ceci dit, je fais pas mal de basse continue, donc après, avec des copains violonistes ou oboïstes, ou flûtistes d'ailleurs.
Oui, le basson a cette fonction parfois dans
certaines... Voilà, c'est un rôle magnifique de faire la basse continue. Mmh. Acheter de la musique, la découvrir sur le moment, la lire, jouer la basse continue, ça je le fais très souvent. Et là, on peut aborder ce répertoire-là.
Vous avez le temps entre votre poste de basson solo au Philharmonique de Radio France, vous êtes professeur, vous enseignez au CNSM de Lyon.
Oui, et je fais aussi partie des Dissonances, l'ensemble fondé par David Grimal.
Ça ne m'étonne pas de vous, Julien Hardy. C'est bien l'esprit, cet esprit collectif, généreux.
Sans chef, à l'écoute. On essaie de redécouvrir des pièces qu'on a déjà jouées 1000 fois, mais d'une façon un peu différente. Oui, c'est ça, essayer de découvrir ou de redécouvrir des musiques qu'on a l'habitude de jouer.
Des musiciens toujours en mouvement. Alors, votre choix suivant, c'est Mozart. Vous vouliez absolument qu'il y ait du Mozart. Thank you. L'allemande de la suite en do majeur Köchel 399 de Mozart, au piano forte, on peut le dire, Andreas Steyer.
Eh bien oui, voilà encore un artiste que j'admire.
Et Julien Hardy, c'est un de vos,
mais oui,
un de vos héros.
Ah ouais, absolument. Alors je l'ai jamais rencontré, j'ai jamais joué avec lui, mais c'est un de mes rêves de pouvoir jouer avec lui, ouais, et de le rencontrer. Et... voilà, j'ai découvert le pianoforte avec Steyer.
Et vous avez son son dans l'oreille pour toujours.
Voilà.
C'était un répertoire très baroque, Julien Hardy. C'est normal, au basson, il y a un répertoire, comme vous le disiez, avec Vivaldi qui est très important. Maintenant, vos deux derniers choix vont nous transporter dans d'autres univers. Le premier, c'est un univers qu'on peut imaginer quand on est un souffleur comme vous, c'est celui du jazz. C'est joli, ces frottements de souffle, de son, comme ça, dès le matin. Julien Hardy.
Oui, bah, c'est le projet donc, des frères Belmondo, l'hymne au soleil. Donc, c'était il y a une douzaine d'années maintenant.
C'était donc, Notre Père, donc sur une musique de Maurice Duruflé.
Voilà. Et donc, cet album tourne autour de la musique de Duruflé, de Lili Boulanger aussi. Un peu de Forêt, un peu de Ravel. Mais c'est surtout Duruflé et Lili Boulanger. Et donc, album classique jazz, qui à l'époque avait remporté 3 ou 4 victoires du jazz. Et je les avais rencontrés un peu par hasard. Et ils m'avaient proposé ce projet, donc également un peu par hasard. Et grâce à eux, j'ai pu découvrir l'univers du jazz, un autre public, une autre façon de jouer, mais à la fois les mêmes émotions et le même. Ce sont des musiciens très engagés, très talentueux. Et ce projet fait vraiment partie de ma construction musicale.
C'est un peu le cas, on en parlait, Julien Hardy, des musiciens de votre génération et encore plus de la génération qui vous suit. Cette espèce d'ouverture des oreilles incroyable.
Ouverture et polyvalence, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant, les musiciens, on les voit arriver même avant le conservatoire. Ils peuvent jouer Vivaldi avec vraiment une approche entre
baroque.
Guillemets moderne,
oui.
Donc baroque, oui. Et en même temps, certains font du jazz. La nouvelle génération est très riche, très ouverte, très polyvalente.
On en a un aperçu avec votre dernier choix.
Mistakes, scratches and flaws make me close my eyes before you hear me saying, hear me when I try not to recall how come everything falls the way it falls. Set my heart for you unless you help it. See me
Quelle voix! Alors Jeanne Adède, on la connaît dans le jazz, c'est surprenant ce répertoire.
Voilà, et en fait Jeanne, donc c'est, je l'écoute en ce moment à fond, donc c'est pour ça que je voulais la diffuser. C'est une amie d'enfance, on était en primaire, elle est drôle,
aussi ça.
Pour moi, et donc et j'adore ce qu'elle fait, et j'adore la musique électro, et là elle est dans l'électro-rock, donc je trouvais que ça convenait parfaitement.
Un peu moins électro, Julien Hardy, un extrait du disque que vous venez donc d'enregistrer avec vos amis Simon Zawi au piano, Frédéric Tardy au hautbois,
Nicolas
Balderoux à la clarinette.
Voilà.
On passe un extrait de ce Florent Schmitt que vous aimez beaucoup. C'était sur un rythme prévu, le deuxième mouvement d'Atour d'Anche de Florent Schmitt, un extrait du disque que le bassoniste Julien Hardy a enregistré avec ses complices Nicolas Balderou à la clarinette, Frédéric Tardy au hautbois et Simon Zaoui au piano. Bonjour Baptiste Etchegaray.
Bonjour Dominique.
Alors ce soir à 20h sur une chaîne amie, France Culture, sera diffusé ce que l'on appelle ici un concert fiction avec l'Orchestre National de France sur un texte de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. Alors Baptiste, vous avez assisté aux répétitions.
Oui, j'ai beaucoup de chance.
Ah oui, je trouve.
Concert fiction qui était enregistré la semaine dernière en public, donc en une seule prise, ce qui nécessite évidemment beaucoup de travail en amont. Les musiciens de l'orchestre doivent jouer avec les comédiens présents sur scène, avec les bruiteur, avec le texte de Conrad adapté par Stéphane Michaka, qui a eu comme gageure de raconter pour la radio, pour un concert, cette histoire sombre. On suit Marlowe, un jeune officier de marine britannique qui remonte le cours d'un fleuve au cœur de l'Afrique noire, voyage au cœur des ténèbres où la bestialité prend peu à peu le pas sur l'humanité. Didier Benetti a composé la musique, orchestre dirigé par Jeffrey Stiles, le tout réalisé par Cédric Ossir. J'ai pu les rencontrer tous en pleine répétition dans le très beau et très grand studio 104 pour vous mettre l'eau à la bouche et aux oreilles avant la diffusion ce soir. Stéphane Michaka,
oui.
Je peux vous déranger
ouais,
deux minutes.
Avec plaisir.
Je vous vois avec des feuilles, un stylo, vous écrivez plein de choses.
Oui, en fait, on est en pleine répétition. Il y a tellement d'éléments dans un concert fiction. Il y a évidemment l'orchestre, l'Orchestre National de France. Et puis, il y a le texte et 6 comédiens, 2 bruiteuses. Donc, quand on répète, on essaye d'avoir les oreilles le plus large ouvert possible. Et on essaye jusqu'au bout d'avoir quelque chose qui est presque une symbiose, hein, entre la musique et le texte. Mais ça demande une grande attention, une grande écoute à chaque filage.
C'est vous qui avez adapté ce texte de Conrad, Au cœur des ténèbres. Pourquoi vous avez choisi ce texte?
On a choisi Au cœur des ténèbres avec la direction de la fiction de France Culture, avec le réalisateur, parce que on a besoin de, pour les concerts fiction, de textes qui ont un imaginaire très fort. Quelque chose qui est de l'ordre du visuel aussi, c'est-à-dire ça suscite plein d'images, un texte comme Au cœur des ténèbres, c'est un voyage le long du fleuve, une remontée du fleuve Congo, et pour que l'orchestre puisse vraiment s'épanouir, pour que Didier Benetti, quand il compose, puisse s'appuyer sur des images très fortes, on a besoin de textes où l'imaginaire est très puissant, où il y a quelque chose qui est en fait un envoûtement. On a fait Dracula, Au cœur des ténèbres et Alice au pays des merveilles. À chaque fois, c'était des textes où il y avait un imaginaire très, très envoûtant.
Celui-ci est plutôt crépusculaire, sombre.
C'est vraiment un des textes les plus sombres et les plus ténébreux de la littérature. On peut dire aussi que c'est un des textes les plus immobiles. Il y a une torpeur tropicale dans Au cœur des ténèbres. Alors ce qu'on a essayé de faire avec le compositeur, c'est d'accentuer des couleurs. Elles sont présentes dans le roman de Conrad, mais elles sont un peu souterraines, un peu invisibles à la lecture, un peu entre les lignes. On les a accentuées, en particulier une dimension film noir. Et donc il y a un côté un peu polar qu'on a rajouté, là encore pour donner à l'orchestre des couleurs très contrastées. C'est vraiment un roman d'aventure aussi, Au cœur des ténèbres, donc ça on l'entend. La brousse, c'est le côté un peu hollywoodien presque de la partition. Et puis, on a ajouté aussi une couleur qui est très peu présente dans le texte, mais moi j'y tenais beaucoup, qui est une couleur romantique, puisque dans le roman de Conrad, les échanges entre Marlowe, le narrateur, et la promise, qui est la fiancée de Kurtz, n'occupent que 3 pages à la fin du roman. Et moi je l'ai fait venir dès le début, et en fait tout le récit est raconté à la promise par le narrateur, par Marlowe. ce qui n'était pas le cas du roman, mais ça permettait de donner une tonalité romantique, puisqu'on sent que quelque chose se noue entre Marlowe et cette promise, qui a aussi permis de faire de très belles choses avec l'orchestre. Donc Didier Benetti a composé une valse, c'est les moments où on entend le piano, pour qu'on ait une couleur un peu plus lumineuse que ce qu'il y a dans le roman, qui est vraiment, vraiment sombre.
Sur le perron d'une maison blanche, austère comme un mausolée, j'ai tiré la sonnette d'une porte en acajou. Tandis que je patientais, le fantôme de Kurtz me dévisageait dans un reflet. Je pouvais entendre son souffle. On aurait dit qu'il allait prononcer à nouveau ces mots, chuchotés à l'extrémité du fleuve. Ce cri étouffé qui...
Je vous attendais.
Ce qui est particulier dans les concerts fiction, c'est que c'est non seulement une fiction radiophonique, mais une fiction musicale. Une partie du récit va être prise en charge par l'orchestre. Ça veut dire que moi, je dois ménager dans mon adaptation de grandes ellipses qui sont en fait des creux qui vont être remplis par la musique. Donc il y a des moments, c'est pour l'adaptateur, c'est un vrai renoncement parce que... Mais c'est pas seulement ne pas écrire, c'est aussi écrire de telle façon que là, il puisse arriver un thème musical qui va continuer le récit quand il n'y a plus de mots. Les musiciens n'ont pas toujours les indications qui sont des indications presque qu'on donnerait de mise en scène d'une pièce de théâtre, mais elles valent aussi pour la musique. C'est-à-dire quel est le statut d'une réplique, est-ce que c'est un souvenir, donc quand il y a une note, un instrument qui joue derrière, il faut que les musiciens soient très conscients de ce qu'on est en train de raconter. Si c'est un rêve, si c'est un souvenir, ils ne le jouent pas pareil que si c'est un moment présent. Et donc les répétitions sont très importantes pour ça aussi, c'est le moment où tout le monde comprend vraiment ce qui est raconté.
Quand on arrive à la mélodie 240, il faut que ça soit souple et cantabile, mais absolument précis rythmiquement, s'il vous plaît. Je vous dirai pourquoi, c'est parce que les pauvres basses ont pa, 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 pa. Ouais. Super, super. Si vous jouez avec ça, tout est parfait. Mais le problème, c'est que la dernière fois, les basses ont fini par jouer sur le temps. Et il faut maintenir ça. Pa, 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 pa. On peut juste essayer ça, s'il vous plaît.
Bonjour monsieur le chef d'orchestre. Tout à l'heure je vous entendais dire il ne faut pas aller trop haut, résister à la tentation d'aller trop haut, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que quand on a de belles mélodies à jouer, que ça soit à l'hautbois, aux clarinettes, au corps, on a forcément envie de s'exprimer et de donner le meilleur de soi-même. Donc forcément quand on joue en soliste, on joue un petit peu plus fort. Ici il faut rester dans le cadre de l'orchestre.
Vous connaissez ce livre?
Bien sûr.
De Conrad, qu'est-ce qu'il vous évoque au cœur des ténèbres?
Je crois que dans le monde anglo-saxon, c'est le livre le plus connu de Conrad. Et évidemment, c'est lui qui a inspiré le film Apocalypse Now. Et je pense que la plupart des gens, surtout francophones, s'associent à ce film plutôt. Si on prend le film, tout est dans l'outrage. Tandis que dans le livre lui-même, tout est dit à demi-mot. Et c'est là la différence, et c'est là, à mon avis, la grande réussite de cette partition, c'est de traduire ce qui ne peut pas se dire par des mots.
et faire entendre cette ambiance.
Tout à fait, l'ambiance de la jungle. Vous avez peut-être entendu dans la salle, il y a des bruitages aussi qui entourent le public.
Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrasé l'araignée?
Pas pu m'en empêcher.
Je savais que tu allais dire ça.
On pourrait vraiment être au Congo.
Tu as peur.
Là oui, quand vous êtes en train de diriger, vous pensez que vous êtes dans un pays à l'étranger, en Afrique?
Pas vraiment, j'ai autre chose à penser à ce moment-là.
Vous pensez à quoi?
Je pense à... Est-ce que je vais penser à donner l'entrée aux bons musiciens? Est-ce que je vais me souvenir de donner l'entrée aux comédiens? Des choses techniques, en fait. Malheureusement, on ne peut pas trop se lâcher et se faire plaisir.
Les pèlerins ont armé leurs fusils. Pour une fois qu'ils avaient des cibles mouvantes, des sauvages, des vrais, ils s'en sont donnés à cœur joie.
Ça, il faudrait qu'on revoie avec lui, s'il peut démarrer un peu plus tôt, aller peut-être un peu plus vite et donner un peu plus de voix.
Oui.
Parce que moi, de ce que j'entends musicalement, c'est super, il faut que ça monte comme
ça. Oui.
Donc c'est à Damien, là, pour le coup, de s'adapter.
D'accord.
Vous êtes le réalisateur Cédric aussi, hein, de cette fiction.
Oui.
Cette fiction va s'enregistrer en public. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte?
Plusieurs choses. Je pense que pour le public, c'est assez spectaculaire, et même si ça reste éminemment radiophonique. C'est ça qui est assez stupéfiant. De voir l'interaction en fait entre les musiciens et les comédiens, parce que là ils jouent tous ensemble en même temps. Ils sont portés les uns par les autres et ça c'est assez formidable. C'est pas l'habitude qu'on a en studio, on compartimente les choses, on enregistre et après il y a une post-production, là tout se fait en même temps. Et là le public amène une dimension supplémentaire d'écoute aussi, d'attention et je pense de concentration et pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a les musiciens, les comédiens et le public. On peut remployer l'expression de l'œil écoute, mais c'est précisément ce type d'enregistrement de fiction, de concert-fiction en fait. Et pour le public, c'est assez saisissant, je pense, de voir aussi quand les musiciens se préparent, quand les comédiens se lèvent, qui parlent, de voir comme la magie de la radio.
Le directeur a pris son ton le plus faussement sincère.
Nous sommes venus vous sauver.
Ah, sauvez-moi, sauver l'ivoire, vous voulez dire.
Et l'autre plus faux encore.
Remettez-vous à nous. Vous êtes malade.
Malade? Pas si malade que vous aimeriez le croire. Qu'importe, je mettrai mes plans à exécution.
Je voulais savoir ce que ça représentait, ce que c'était d'être comédien pour ce genre de pièce-là, radiophonique.
Avec l'orchestre?
Oui, avec l'orchestre.
C'est que pour la première fois, en tant que comédien, on peut se prendre pour des chanteurs d'opéra, sans avoir à chanter. Ça tombe très bien, puisque moi je chante faux personnellement. C'est pas toi.
Non, mais c'est assez extraordinaire d'être non seulement au cœur des ténèbres, mais au cœur de l'orchestre, parce que on a rarement l'occasion d'être au milieu d'un orchestre comme ça. C'est des frissons dans le dos quand il faut jouer.
Est-ce que le fait de devoir comme ça être tellement à l'écoute de la musique, des sons, est-ce que ça change votre façon de jouer?
Ça a quand même une petite incidence parce que l'orchestre est tellement puissant et on n'a pas l'habitude d'être confronté à une sorte de dragon comme ça qui a l'air un peu inarrêtable pour nous pauvres acteurs. Mais du coup, on doit quand même un petit peu se défier parfois de l'orchestre parce qu'il peut nous amener à décaler nos couleurs de jeu à nous. Parce que c'est tellement fort et puis comme on est au cœur de ça... C'est pas forcément toujours un allié au début, en tout cas, des répétitions. Il y a une jauge à trouver entre la puissance de l'orchestre et la précision que nous, on doit avoir dans notre jeu et de la précision de couleur, notamment.
Quelle couleur de jeu, justement, vous a demandé ?
Ça dépend des personnages, parce que c'est vrai qu'entre les deux personnages centraux, notamment celui de Kurt, qui est quand même une sorte d'âme damnée qui plane sur toute l'adaptation. Après, il y a des personnages qui sont des personnages assez concrets. En fait, par exemple, le personnage du comptable que je dois jouer, c'est un exécutant. Et pourtant, il faut qu'il y ait derrière ça cette note de colonialisme qu'il y avait à l'époque et qui trimballe quand même quelque chose de barbare derrière une sorte de froideur administrative.
Au cœur des ténèbres, de Joseph Conrad. Librement adapté par Stéphane Michaka. Avec l'Orchestre National de France.
C'est quand même vraiment un produit maison, un produit Radio France. Je crois qu'il n'y a qu'ici qu'on peut faire ce genre de choses.
Oui, et puis c'est très rare, ces concerts fiction enregistrés en public, comme ça. Donc effectivement, si vous êtes chez vous, écoutez France Culture ce soir, notre...
Oui, bon, allez, pour une fois, vous pouvez nous faire une infidélité.
C'est à 20h, au cœur des ténèbres de Joseph Conrad.
Merci Baptiste.
La chronique de la Maison Ronde.
Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors Marie, ce matin, un thème de saison, puisque vous allez nous parler du froid.
Oui, alors il y a des spécialistes en ce moment qui s'expriment beaucoup au sujet du climat. Alors pour rester dans le thème, ce matin j'ai eu envie de vous faire entendre quelques musiques du froid. D'autant que peut-être un jour, qui sait, on ne connaîtra plus le froid. Que restera-t-il alors pour s'en faire une idée ? Eh bien, ce matin en hiver de Tchaïkovski par exemple. Le matin en hiver de Tchaïkovski qui glisse comme des patins sur la glace.
Alors de la Russie de Tchaïkovski, Marie, vous nous emmenez au Brésil.
Le Brésil, c'est peut-être l'un des pays où justement on ne peut que se faire une idée de ce qu'est le froid, on ne peut que l'imaginer. Le compositeur brésilien Henrique Oswald a écrit une pièce en 1902, une pièce qui remporta plusieurs prix. L'un d'entre eux fut attribué par Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré. J'insiste sur 1902 parce que c'est très étonnant, cette pièce s'intitule « Il neige ». La neige brésilienne d'Henrique Oswald qui donne envie de se mettre en terrasse, je trouve.
Sans les flocons de neige, peut-être.
Non, en effet. Et puis la saudade brésilienne n'est pas loin en tout cas. Et c'est une idée de la neige assez langoureuse, oui, mais nostalgique aussi. Contrairement à celle de Marc-Antoine Charpentier dans Brouillard, Glaçons, Neige et Frimas. Thank you.
William Christier, les arts fleurissants dans cet extrait de la dispute des bergers intitulé « Brouillard, glaçons, neige et frimas ».
Oui, on y entend bien l'éoliphone, cette machine à vent qui était très prisée au théâtre et à l'opéra au XVIIe siècle. Et plus tard aussi d'ailleurs chez Richard Strauss, par exemple dans son Don Quichotte, dans l'épisode des moulins à vent. Alors au XXe et au XXIe siècle, c'est le thérémine qui remplace la machine à vent. Voici le début de Givre d'hiver du compositeur finlandais Kalevi Aho. Puisque nous sommes en Finlande et au XXIe siècle, restons-y. La Finlande est un terreau pour la musique aujourd'hui. On pourra découvrir ou redécouvrir cela la semaine prochaine, vendredi 11 décembre, à l'auditorium de la Maison de la Radio. Mikko Frank,
qui est finlandais lui-même.
Oui, il dirigera des œuvres de ses compatriotes, dont Magnus Lindberg. On reste dans le vent. Un extrait de « Vent » de Magnus Lindberg, au programme du concert du 11 décembre. Également, Jean Sibelius, voici le cœur des vents de Sibelius. Thank you.
J'ai un peu froid aux pieds. Le cœur des vents, extrait de la deuxième suite, opus 109 de Sibelius, interprété par Melville Mariner et l'Academy of St. Martin in the Fields.
Et on retrouve ces musiques de Finlande ce vendredi 11 décembre à 20h à l'auditorium de la Maison de la Radio qui est bien chauffé, avec au programme Kokkonen, Lindbergh, Rautavaara et Sibelius, Mikko Frank à la baguette, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Anssi Kartunen au violoncelle.
Merci Marie Fauché, à samedi prochain. Agenda. Lundi, pour des raisons de sécurité et de limitation des entrées au sein de Radio France, l'émission publique à l'improviste d'Anne Montaron aura bien lieu, mais n'accueillera pas pour une fois du public. Elle recevra néanmoins Raymond Bonny à la guitare et à l'harmonica et le quartet formé par Denis Charolle à la batterie, Julien L à la clarinette basse, Thibaut Célie à la contrebasse et Émeric Avis à la trompette. L'émission sera diffusée le samedi 23 à minuit. Mardi 8 décembre à 19h, le concert de Noël de la prémaîtrise de Radio France aura lieu à l'auditorium Angèle et Roger Tribouillois à Bondy. Il sera dirigé par Morgane Jourdain et on pourra y découvrir une création de Coralie Fayol, Chat secret, d'après un texte de Jean-François Ménère, ainsi que des carols de Holst et Timothy Salter. Bruno Perbost sera au piano. Et enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous pouvez parrainer le nouvel orgue de Radio France. Et oui, en faisant un don, vous parrainez donc l'un des 5320 tuyaux de ce nouveau-né, dont les premiers sons pourront être entendus lors du concert du 10 décembre. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site Maison de la Radio tout attaché.
France Musique.
Un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre commentaire de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Ça commence bien, Jean-Yves Pad, bonjour, c'est quoi ?
Bonjour Dominique, bonjour à tous. C'est quoi ? C'est le signal intergalactique presque d'une radio fantôme. D'une radio qui aurait dû exister et qui n'a pas existé dans les années qui nous intéressent, puisqu'il faudra attendre 1944 pour qu'elle se mette en place.
Et alors, quoi cette radio fantôme ?
C'est Radio Corse.
Radio Corse.
Oui, parce que Radio Corse, figurez-vous, est émis en 1901. Il y a eu des essais.
C'est assez tôt par rapport aux autres.
Très très tôt. Il y a eu des essais de transmission de signaux. C'est pourquoi j'ai choisi ces petits signaux morse entre l'île et le continent, le sud de la France pour être très précis, Antibes. Et puis ça a été un plein succès. Ça a fonctionné très très bien.
Et puis ça s'est arrêté.
Ça s'est arrêté. L'antenne Corse a été rattachée à Radio Méditerranée, Radio Nice particulièrement. Et donc il n'y a eu pour la Corse une diffusion qu'à partir du continent. Retour des choses peut-être. Et c'est seulement après la guerre, une radio de libération sera installée et connaîtra la descendance qu'on lui connaît aujourd'hui, les radios bleues, etc. Mais donc c'est d'une radio fantôme que je vous parlais, mais cependant une belle radio.
Alors, qu'est-ce qu'on y diffusait sur cette belle radio ?
Qu'est-ce qu'on y diffusait ? Vous imaginez bien qu'on y diffusait Dino Rossi.
Ah non, si. Je ne peux pas le croire.
Alors, je ne vais pas vous parler de Petit Papa Noël ou Bella Catarina Cicci.
Pourtant, c'est l'époque. On s'en approche.
Mais Dino Rossi, qui est donc un enfant de la Corse, a eu du mal. Il était apprécié pour sa voix très très tôt dans son milieu, dans sa famille, dont ses parents faisaient venir des gens, des amis pour l'écouter. Et puis, il a eu beaucoup de mal à se lancer. Et finalement, c'est à Marseille, alors qu'il a enregistré un petit disque souvenir pour sa mère, pour lui dire tout va bien, quelque chose comme ça, que l'ingénieur du son l'a remarqué. Il lui a dit, dis donc, toi, mon petit gars, tu vas monter à Paris, on va faire un essai de voix. Et la carrière de Tino a été lancée dès le milieu des années 30. Et je vous propose de le retrouver en 1936 dans de l'opéra.
Alors ça, c'est une surprise.
Je crois entendre encore nuit. souvenir charmant folivresse du rêve.
Quelle voix magnifique.
C'est légèrement beau.
Quel dommage qu'il ait dévié sur des chemins qu'on apprécie un peu moins, parce que c'est vraiment une carrière d'opéra extraordinaire.
Il avait ce qu'on appelait une voix naturelle.
Oui.
Il n'a jamais travaillé, jamais pris cours de chant.
Mm.
Et il apprenait tout à l'oreille. Enfin, c'est
oui.
vraiment
il avait de la faille,
un talent spontané.
Mm.
Et c'est vrai qu'il a gravé quelques faces avec des airs d'opéra. Il a une voix de ténor. On l'appelait le ténorino en s'en moquant un petit peu. Mm. Mais bon, il a préféré le succès public. Après tout,
il y en a beaucoup d'enregistrements de ténor.
Il y a 5 ou 6 faces d'air tirées d'opéra. Et sinon, ça se compte par centaines. C'était
la coqueluche
de l'époque et jusqu'à la fin de sa vie. Hein, tout le monde était scotché.
Ça, on le sait, pour le répertoire de variété, ça c'est sûr.
Oui.
Mais pour l'opéra, c'est beaucoup
non,
plus rare.
Pour l'opéra, il ne s'est jamais produit sur scène. Il chantait sur une scène lyrique, je veux dire. Il produisait ces airs-là au milieu de concerts, de récitals.
Et bien voilà, un aspect de la vie de Tino Rossi qu'on connaissait un peu moins.
Alors, revenons à la Corse.
Que nous n'avons jamais quitté.
Que nous n'avons jamais quitté, même si on fait semblant d'y aller. Il y a des artistes qui aiment la Corse parce que d'abord, c'est un paysage extraordinaire. C'est aussi une terre d'histoire assez fascinante. Et parmi ces artistes qui aiment la Corse, il y a Magda Tagliaferro et Reynaldo Hahn. Et si vous allez sur le site, vous verrez une photo qui sort des collections de Philippe Rougier qui représente Magda Tagliaferro et Reynaldo Hahn partant pour la Corse ou revenant de la Corse où ils sont allés faire une excursion. Alors pourquoi, me direz-vous ? Car vous êtes
futé. Je vous dis pourquoi.
Ah, pourquoi ? Eh bien, figurez-vous, parce qu'en 1931, Reynaldo Hahn a dédié à Magda Tagliaferro son premier concerto en mi majeur. Et ensuite, il y a eu une tournée sur la Côte d'Azur. Et en 1932, une radio PTT, radio du Sud donc, que nous avons déjà étudié, a retransmis le concert et particulièrement l'a retransmis vers la Corse. En 1937, Magda et Reynaldo l'ont enregistré et je vous propose d'écouter le dernier mouvement du concerto, la toccata, c'est brillantissime. Thank you.
Quelle belle pièce!
C'est une belle pièce, et puis surtout, c'est étonnant. Reinaldo Hahn, qu'on considère souvent comme musicien belle époque, lianesque presque, a su renouveler lui aussi son écriture tout au long de sa vie. Et c'est intéressant de l'entendre ici diriger lui-même une de ses œuvres.
Alors racontez-nous un petit peu le disque, l'orchestre.
Alors le disque a été enregistré à Paris le 10 mai 1937. L'orchestre, c'est un orchestre sous
c'est
la
direction le fameux orchestre
sous la direction de Reinaldo Hahn avec Magda Taliaferro au piano. Vous savez, les étiquettes en disent assez peu.
Et c'est un disque.
C'est un disque pâté.
Merci Jean-Yves Pat.
On se retrouve la semaine prochaine.
Mais j'espère bien.
Mais oui.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte d'Annie de Fréjus. Je devais alors avoir 6 ou 7 ans. De la montagne, nous venions d'emménager dans une petite ville où tout n'était pour moi que découverte. Un jour après la classe, alors que nous flânions avec une petite camarade dans les rues du centre-ville, mon oreille fut attirée par une musique qui provenait d'un magasin. À l'époque, dans les années 50, mon contact avec la musique se bornait à l'orgue mécanique les jours de marché ou la fanfare municipale les jours de fête. Mais la musique émanant de ce magasin, sans doute un disquaire, c'était autre chose. C'était émouvant et surtout tellement beau. Alors que ma petite camarade, ne comprenant pas ce qui m'arrivait, essayait de m'entraîner, moi je restais là jusqu'à la fin de ma musique, sentant déjà combien je serais malheureuse sans elle. Dès cet instant, je fus attentive à tout ce que je pouvais entendre de musical. Mais à l'époque, notre vieux poste de radio servait avant tout à écouter les informations et à 7 ans, on se couche tôt. Il me fallut attendre l'âge de 11-12 ans, lorsque ma mère reprit du travail à l'extérieur, pour que j'aie enfin accès, après l'école, à notre précieux poste de radio. Alors l'oreille collée au récepteur, je cherchais inlassablement de la musique, celle qui pouvait me rappeler ma musique. C'était souvent sur des radios italiennes, notre poste n'avait pas d'ondes ultra courtes, que j'attrapais, crachotant, grésillant, fluctuant, quelques extraits d'opéra. Mais il me fallut attendre encore quelques années pour qu'un jour, ô merveille, ma musique soit diffusée à la radio. Comment ai-je pu la reconnaître après toutes ces années? Comment s'était-elle imprimée en moi de façon aussi durable? Alors émue, tremblant à l'idée de rater le titre de l'œuvre, j'arrivais à peine à savourer cet instant ô combien magique. Enfin, je finis par entendre prononcer, haut et clair, l'aria de la suite numéro 3 de Bach. Jusqu'à nos jours, quel chemin parcouru. Nous sommes aujourd'hui gavés de musique, presque saturés. Mais je suis toujours fidèle à la radio, aimant me laisser surprendre par des œuvres que je n'ai pas choisies. Et lorsque j'entends par hasard, c'est devenu assez rare, l'aria de Bach, je ressens une petite nostalgie, non pas celle des années passées, mais plutôt celle de l'innocence de cette oreille toute neuve, avide de découvrir toute la musique du monde. Pour illustrer le souvenir musical d'Annie de Fréjus, nous écoutions l'aria de la troisième suite de Bach, interprétée par Joshua Bell. Ce sont vos souvenirs qui nourrissent cette rubrique, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos textes, que je me fais toujours un plaisir de lire à cette antenne. Question de cœur. Bonjour Sophie Janin.
Bonjour Dominique.
Tout ce mois de novembre, Sophie Janin, nous nous interrogeons avec vous sur cette question de la technique de la direction, que ce soit de chœur ou d'orchestre. La semaine dernière, nous avons évoqué cette main droite qui tient souvent la baguette. Et quid de la main gauche alors ?
Là encore, ça dépend des chefs, ça dépend des œuvres, de beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'il n'y a pas une réponse universelle à tout ça. Il y a beaucoup de chefs qui dirigent beaucoup de choses en parallèle, tout simplement pour renforcer, pour inclure tout l'effectif qui est devant eux. Très souvent, il y a les mains, on les retrouve en miroir. Et ça, on le voit souvent. Et même quand on voit un enfant qui imite un chef quand on les voit au concert, ils font souvent des choses en parallèle. Et je pense que c'est pas parce que les enfants manquent nécessairement de coordination, c'est que souvent les chefs dirigent comme ça. Maintenant, il y a aussi une grande liberté dans la direction. On parlait la semaine dernière justement des nuances, des caractères, etc. Et il faut savoir que ça soit la main gauche ou la main droite, on a la possibilité de travailler quand même avec la largeur du geste sur trois dimensions. C'est-à-dire que je peux à la fois avancer mon bras et ma main devant moi, je peux l'élever, c'est-à-dire de façon verticale,
haut, oui.
Et je peux également travailler horizontalement sur l'autre plan, c'est-à-dire que je peux l'étaler,
l'ouvrir ou refermer.
Ouvrir le geste ou refermer. Donc ces trois dimensions déjà incitent une certaine richesse du geste où il ne faut pas oublier de s'en servir. Et je pense que justement, si souvent on peut constater qu'un chef, il a une main droite qui est un tout petit peu plus fermement en train de battre une mesure, la main gauche,
on va souvent la voir voyager un tout petit peu plus dans ces trois dimensions, dans ce geste expressif. Maintenant, moi, j'avoue que je fais aussi beaucoup de choses parallèles, surtout quand le cœur chante quelque chose avec le même rythme, ce qu'on appelle en homorythmie, où il n'y a pas vraiment besoin de cette séparation. Pour garder la clarté, bien évidemment, à ce moment-là, je sépare un petit peu plus mes gestes, mais finalement, j'aime aussi pouvoir me servir de mes deux mains dans l'expressivité et dans la clarté.
Un extrait du Stabat Mater d'Alessandro Scarlatti, chanté par la maîtrise de Radio France, avec l'ensemble Pulcinella, la direction Sophie Janin, un enregistrement réalisé à Montpellier en 2014. C'est la fin de notre émission, réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, d'Alexandre Billard et de Cécile Gissot. Une émission que vous pouvez réécouter ou podcaster en allant sur le site de France Musique, à la page de Fabrication Maison. Bon week-end.